La prochaine fois que vous devrez balayer chez vous, pensez au fait suivant. Au siècle précédent, on a découvert que la beauté et même l'existence des nuages est due à la présence de petites particules de poussière dans l'atmosphère. La vapeur d'eau se condense à leur contact, ce qui la rend visible sous forme de nuages. En d'autres mots, et si je comprends bien, sans ces poussières, il n'y aurait tout simplement pas de pluie. Bien entendu, le prophète Nahum ne possédait pas cette connaissance, et pourtant il écrit « Les nuées ou les nuages sont la poussière que soulèvent les pieds de l'Éternel ». Je continue à lire dans le premier chapitre de son livre. « L'Éternel menace la mer et il la met à sec, il fait tarir les fleuves. Le Bazan comme le Carmel deviennent des déserts, la flore du Liban se fane. » Verset 4. Nahum emprunte ces images à la Galilée qu'il connaît personnellement, puisque de toute évidence, il y était né et y avait passé au moins une partie de son enfance. Il mentionne les trois endroits de Palestine où la végétation est la plus luxuriante et qui constituent les frontières d'Israël à l'est, à l'ouest et au nord. Le Bazan était une région fertile réputée pour ses pâturages et située à l'est de la mer de Galilée et au nord-est du fleuve Jourdain. Le Carmel est une chaîne de montagnes à l'ouest de la Galilée, proche du port actuel de Haïfa. Surplombant la plaine de Megiddo, il était propice aux jardins et vergers. Le Liban est une région très fertile au nord de la Palestine qui est célèbre pour ses cèdres, mais aussi pour ses vignes et ses fleurs. Quand on voyage de Beyrouth à l'ancienne ville de Tyr, on traverse une contrée magnifique qui, au printemps, est couverte d'arbres fruitiers en fleurs. Et au loin, on peut apercevoir la chaîne de montagnes de l'Anti-Liban couverte de neige. Cependant, la tempête qui émane de Dieu et qui symbolise son jugement est si violente que le prophète voit ces trois endroits idylliques qui constituaient les principaux paniers à pain de la Palestine dévastés. La capacité de l'Éternel à dessécher ces régions verdoyantes, s'il le veut et quand il le veut, montre qu'il pourra juger Ninive, capitale de la Syrie, de la même manière en la réduisant en ruine. La mer ainsi que les fleuves desséchés représentent aussi un jugement divin, mais en même temps c'est une allusion directe à la libération d'Israël de l'esclavage égyptien, un rappel très fréquent dans l'Ancien Testament. C'est en asséchant la mer Rouge que l'Éternel a délivré son peuple des griffes du Pharaon. Dans le livre de l'Exode, on lit que « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » Et dans un hymne de louange, le psalmiste rappelle que l'Éternel apostropha la mer des roseaux qui s'assécha. Il conduisit les Hébreux à travers les flots comme à travers un désert. Pour bien montrer à ses disciples qui il était vraiment, Jésus a commandé aux éléments déchaînés. Dans l'Évangile, il est dit qu'il parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Suite à cet événement sensationnel, il est dit que les disciples étaient saisis de crainte et d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Voyez, il commande même au vent et aux vagues et il s'en fait obéir. » Jésus disposait de la même puissance et de la même autorité que l'Éternel de l'Ancien Testament. Ici, au moyen d'une description symbolique, le prophète Nahum enseigne l'omnipotence de l'Éternel, sa toute-puissance, et donc qu'il n'existe aucun refuge où l'homme peut se protéger contre ses jugements. Moïse a dit aux Israélites, « L'Éternel, votre Dieu, est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Nahum décrit d'abord la colère de Dieu en termes généraux. Il fera l'application spécifique à Ninive par la suite. Je continue le texte. « Les montagnes vacillent à son approche, les collines s'effondrent, la terre se soulève devant ses pas, tout l'univers est bouleversé avec ceux qui l'habitent. » Verset 5. Nahum décrit un tremblement de terre d'une très forte amplitude accompagné d'éruptions volcaniques. Si on veut, on peut considérer l'Éternel comme le responsable des cataclysmes naturels qui de temps en temps font la manchette des journaux et qui malheureusement causent parfois beaucoup de morts. Par contre, on ne peut pas accuser Dieu si les gens qui ont péri ont bâti leur maison dans des zones dangereuses. L'homme a suffisamment d'intelligence et de connaissances pour savoir qu'il ne doit pas construire une ville sur une faille sismique, au pied d'un volcan, au bord d'un fleuve qui sort périodiquement de son lit, ou sur une colline qui risque de glisser suite à de grosses pluies. Dans ces cas-là, c'est la stupidité humaine alliée à sa convoitise qui tue. Les montagnes qui symbolisent pourtant la stabilité, Nahum les aperçoit qui tremblent devant l'apparition de l'Éternel. C'est aussi ce qui est arrivé au mont Sinaï lorsque la loi fut donnée au peuple hébreu. Moïse écrit que la montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Tous les chamboulements que décrit Nahum sont provoqués par la nature inanimée qui est saisie d'effroi parce qu'elle partage le sort de ses habitants qui, eux, sont terrorisés parce qu'ils sont conscients de leur culpabilité devant Dieu. Je continue le texte. S'ils se mettent en colère, qui pourra subsister? Et qui tiendra quand son courroux s'enflamme? Car sa fureur se répand comme un incendie, les rochers se renversent à son approche. Verset 6. Les deux questions de rhétorique, qui pourra subsister, qui tiendra quand son courroux s'enflamme, affirment avec force et majesté que nul n'est capable de résister à l'Éternel quand il déclenche ses jugements contre les hommes méchants. Le général du roi assyrien Sennachérib a défié Ézéchias, roi de Juda, en lui demandant « Quels sont parmi tous les dieux des pays ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ?» Suite à cette diatribe, Sennachérib et ses minions n'ont pas tardé à découvrir que le vrai patron était l'Éternel et que sa fureur était aussi destructrice qu'un incendie qui détruit tout sur son passage. Le livre de la Genèse nous donne l'exemple typique d'un tel jugement. Je lis le passage. « Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorre une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel. » De l'Éternel, il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. Ce feu était probablement du bitume enflammé. La question « s'ils se mettent en colère, qui pourra subsister ?» est d'abord adressée aux habitants de Ninive, mais elle est aussi d'actualité pour vous et pour moi. En effet, un jour, nous serons tous jugés par Dieu. Alors, comment celui qui ne possède pas Jésus comme sauveur pourra-t-il subsister dans la présence du Dieu trois fois saint, qui a le péché en horreur et qui a bien l'intention de le juger? Beaucoup pensent, très naïvement, qu'ils sont au moins aussi méritants que leurs voisins et donc qu'ils n'ont pas de soucis à se faire. L'auteur anglais, qui est surtout connu pour avoir écrit les chroniques de Narnia, a composé bien d'autres histoires. Dans l'une d'entre elles, il raconte un voyage très particulier, puisqu'il s'agit d'un car qui se rend du séjour des morts au paradis. Comme on aurait pu s'y attendre, il était plein à craquer. Une fois arrivé, le conducteur a dit aux voyageurs « Nous retournons chez nous, c'est-à-dire en enfer, à 16h ». À l'heure dite, le car était plein. Il ne manquait pas une âme. Alors le conducteur a dit « Ceux qui veulent rester peuvent le faire ». Personne n'a bougé. Pourquoi donc? Tout simplement parce que les voyageurs portaient encore leurs péchés en eux, ce qui les mettait encore plus mal à l'aise au paradis qu'en enfer. Si vous mettez devant un porc une surface bien propre et un trou de boue, lequel pensez-vous qu'il va choisir? Je continue le texte de Nahum. Mais l'Éternel est bon! Il est un sûr abri au jour de la détresse et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Verset 7. Cette brève déclaration interrompt subitement la description de la colère de Dieu. Cette colère n'est pas une force aveugle qui ravage sans distinction tout sur son passage. L'Éternel connaît les siens et il est lui-même pour son peuple un abri, un rempart, une forteresse au milieu de la tourmente. L'apôtre Paul écrit « Le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » La population mondiale est proche de 7 milliards d'individus. Au milieu de cette masse humaine, je ne suis qu'une petite poussière. Disons qu'il y a entre 200 ou 300 millions de personnes qui appartiennent à Dieu. Je suis toujours une petite poussière et je pourrais me dire « J'espère que Dieu ne m'oubliera pas ». Mais c'est impossible parce que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il me connaît et il a l'œil sur moi de façon à ce que je ne me perde pas en cours de route. L'Éternel est bon est un axiome universel. Le psalmiste écrit « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. » Dieu est bon pour tous ceux qui lui font confiance. Cette bonté s'exprime dans sa fidélité et dans sa miséricorde. Tôt ou tard, la détresse atteint chacun de nous parce qu'elle fait partie de notre condition de pécheur. Mais celui qui a placé son espérance en Jésus-Christ trouve en lui un refuge et le réconfort dont il a besoin pour continuer sa route. Le prophète Jérémie écrit « Éternel, toi ma force, mon rempart, toi mon refuge au temps de la détresse. » Les habitants de Ninive se croyaient en sécurité dans leur ville fortifiée, mais c'était pure illusion, un mirage, car Dieu était furieux contre eux, comme il l'est d'ailleurs contre tous ceux qui s'opposent à lui. Or, il n'est pas nécessaire de lever le poing au ciel pour être son ennemi. Il me suffit de ne rien faire, de l'ignorer, de me conformer à ma nature première qui est en révolte contre le Créateur, et d'agir comme bon me semble. Tous ceux qui sont indifférents à ce que Dieu demande sont des rebelles. C'est vrai pour le dernier des mécréants, mais aussi pour celui qui est religieux jusqu'au bout des ongles. Je peux bien aller dans un lieu de culte tous les jours, au milieu de la nuit, en marchant sur les genoux, mais ça ne servira à rien parce que ce n'est pas ce qui changera ma nature de rebelle, ni ce que Dieu demande. Je peux construire une cathédrale avec mes propres deniers, peindre des tableaux magnifiques au plafond d'une église, travailler des années à sculpter un personnage biblique, écrire de la musique sacrée et faire les plus grands sacrifices pour Dieu, mais rien de tout cela ne m'ouvrira les portes du paradis. Il faut accepter que Dieu ne me demande rien, aucune contrepartie, avant de me recevoir dans son royaume. Mais c'est bien là que le bât blesse, parce que cette démarche est très humiliante. Les hommes préfèrent nourrir leur orgueil en marchant sur la tête, s'il le faut, tant qu'ils n'ont pas à courber l'échine devant Dieu. Les deux brigands qui ont été crucifiés avec Jésus étaient de vulgaires criminels. Celui qu'on appelle le bon larron ne devait pas être très assidu à la synagogue ou au temple et n'avait probablement pas accompli grand-chose pour Dieu. La seule bonne œuvre qu'il a faite a été de remettre son âme au Seigneur en lui disant « Je suis un criminel, je sais qui tu es, souviens-toi de moi ». Le grand et le seul accomplissement de la vie de cet homme a été de se jeter aux pieds du Seigneur, pour ainsi dire, et d'implorer sa miséricorde. C'est tout, rien d'autre. Quelques heures plus tard, il est mort et il est allé tout droit au ciel. Je continue le texte de Nahum. Par un flot qui déborde, l'Éternel détruira Ninive totalement et il repoussera ses ennemis dans les ténèbres. Verset 8. Le flot qui déborde a deux significations. Cette expression est une métaphore qui représente une invasion ennemie. C'est ainsi que les prophètes Ésaïe, Jérémie et Daniel décrivent respectivement l'armée assyrienne submergeant le royaume de Juda, l'armée du Pharaon envahissant le territoire des Philistins et les guerres qui caractériseront la fin des temps. En second lieu, un flot qui déborde décrit littéralement ce qui s'est passé et qui a contribué à la chute de Ninive. Selon plusieurs historiens antiques, c'est en l'an 614 avant Jésus-Christ que les armées des Mèdes et des Babyloniens sont arrivées dans la plaine de Ninive. Elles ont tout d'abord dû livrer deux batailles contre l'armée assyrienne qu'elles ont vaincue et massacrée. Ensuite, elles ont pris les villes fortifiées des environs de Ninive avant de faire le siège de la capitale. Elles ont concentré leurs attaques sur le nord-ouest des murailles de Ninive parce que c'est là que se trouvait la vanne de régulation d'un affluent du fleuve Tigre appelé Kozer qui entrait dans la ville et la traversait en faisant une boucle autour du palais royal. Mais humainement parlant, Ninive était imprenable car très bien protégée par 13 kilomètres de remparts munis de 15 portes fortifiées et elle était entourée d'un fossé de 45 mètres de large. Voyant cela, pourrait-on dire, Dieu est venu prêter main forte aux assaillants. Il a fait venir des pluies diluviennes qui ont gonflé le Kozer et le Tigre. Ce dernier s'est alors jeté avec furie contre les fortifications du nord de la ville et les ont renversées, ce qui a ouvert Ninive aux armées ennemies qui s'en sont emparées et l'ont pillée avant de la réduire en cendres. L'expression « Dieu repoussera ses ennemis dans les ténèbres » signifie qu'il les fera disparaître de la surface de la terre. Or, cela correspond à la manière dont les inscriptions assyriennes rapportaient la défaite d'un roi. Elles se terminaient par « Et depuis, personne n'a jamais plus vu une trace de lui ». Le jugement dont Ninive et l'Empire assyrien furent frappés n'a pas été une épreuve passagère qui fut suivie par un temps de répit, car leur ruine fut complète et définitive. Dans les Écritures, l'affirmation « Dieu repoussera ses ennemis dans les ténèbres » a une autre signification encore plus sinistre que la précédente. Dans son évangile, Matthieu rapporte qu'à trois reprises, Jésus a comparé le jugement éternel aux ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Imaginez être seul avec vous-même dans le noir le plus opaque, tandis que vous êtes rongé par le remords pour l'éternité. Vous regrettez amèrement tous les péchés qui défilent sans arrêt devant vous et par lesquels vous avez offensé le Dieu trois fois saint. Il s'agit de toutes les actions mauvaises condamnées par sa loi morale que vous avez commises, ainsi que les bonnes actions que vous n'avez pas voulu faire. Pour ce qui est de ces fautes-là, je suis dans le même bateau que n'importe qui. Seulement, j'ai placé ma confiance en Jésus et en sa mort sacrificielle sur la croix pour moi. Le pire des jugements sera le regret incommensurable qu'éprouveront pour l'éternité ceux qui n'auront pas voulu entendre l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus ou qui, l'ayant entendu, auront refusé son offre de salut. Je continue le texte de Nahum. « Que pensez-vous de l'Éternel ? C'est lui qui est l'auteur de destruction totale, et la détresse ne reparaîtra pas une seconde fois. » Verset 9. La question est adressée autant aux Israélites qu'aux Assyriens. Parce que ces derniers, au moment de la prophétie de Nahum, étaient les maîtres absolus du Moyen-Orient, aucune personne n'aurait pu se douter qu'ils mordraient la poussière d'une façon irrévocable. Mais, comme chacun sait, les apparences peuvent être trompeuses, surtout quand on sait que le Seigneur fait exactement ce qu'il dit et nul ne peut l'en empêcher. La déclaration « L'Éternel est l'auteur de destruction totale » confirme ce que Nahum a déjà dit, c'est-à-dire qu'il détruira Ninive totalement. Cette répétition est une façon d'affirmer avec certitude que la fin de Ninive est arrêtée et aura bien lieu. La détresse ne reparaîtra pas une seconde fois est une promesse adressée aux habitants de Juda qui avaient souffert de l'invasion des Assyriens sous le règne de Manassé. Dans la quatrième année de son règne, Esarhaddon conquit la plus grande partie de la Palestine et parmi les vaincus se trouvait Manassé, roi de Juda, parce qu'il fut accusé de complot contre l'Assyrie. Cette attaque avait été un jugement de Dieu contre Juda et contre le roi à cause de l'attitude abjecte de ce dernier et de ses grands qui se livraient à une idolâtrie grotesque et à d'horribles crimes de sang. Certes, il l'avait bien mérité, mais malgré tout, l'Éternel assure son peuple que cette invasion qu'il avait subie était la dernière. Il est réconfortant de savoir que malgré nos fautes, Dieu agit à notre égard selon sa grande miséricorde.